Dans cet épisode, je vais faire référence à des troubles alimentaires. Cela peut très certainement faire écho chez certains d'entre vous, et peut-être chez toi. Alors, si le sujet pour toi est sensible, ne t'oblige pas à écouter les mots qui suivent, il est souvent difficile d'entendre le récit des autres. Il nous ramène inexorablement en arrière. J'ai jamais manqué de nourriture. J'ai la chance monstrueuse d'être bien née. Quand je dis bien née, je veux dire que je suis née dans un pays qui ne connaît ni la guerre, ni la famine. Je suis arrivée dans une famille de la classe moyenne, française. On était déjà quatre, mais mes parents avaient suffisamment d'argent pour nourrir une cinquième bouche. Et pour eux, c'était un choix, une envie et un désir d'avoir un autre enfant. Et en plus de ça, je suis en bonne santé. J'ai un corps qui fonctionne sans que j'aie besoin d'aller chez le médecin. Jamais, ou presque. Bref, à la loterie de la vie, clairement, moi j'ai tout gagné. Manger, pour ma famille, et dans la société dans laquelle je vis, ça fait partie d'une évidence. Et surtout, ça fait partie d'un rituel important. On se doit de bien manger et de le faire avec plaisir. On a les moyens de dépenser beaucoup, beaucoup d'argent dedans. On mange bien et bio. On est clairement l'exemple parfait de la petite famille Bobo. Tous les samedis, c'est poulet frites. Et on mange équilibré le reste de la semaine afin que nos petits corps grandissent le mieux possible. On fête la vie en mangeant, et on mange pour fêter nos réussites. Bref, dans notre société, la nourriture, elle est partout. Manger semble, tu vois, vu de l'extérieur, une action de joie et de vie. Sauf que, avec les années, moi j'ai développé ce qu'on aime appeler des troubles du comportement alimentaire. Pour faire plus poli, et surtout beaucoup moins long, je parlerai de ces troubles sous le nom de TCA. C'est plus pratique. Puis d'une certaine manière, ça camoufle un peu la réalité. Peut-être qu'à force d'avoir eu toute cette bouffe en illimité, mon cerveau il a pété un câble. Le pauvre, il a pas réussi à gérer la pression. J'aimerais aussi rappeler que j'ai grandi avec le prisme d'une féminité contrôlée par le patriarcat. Je m'explique. Ma mère, tu vois, elle m'a éduquée sans le comprendre vraiment avec l'injonction de la réussite par l'apparence. Sois belle et tais-toi un peu. Il n'y avait pas d'injonction directement visée, mais je l'ai vu toute mon enfance faire des régimes à base de poudre miracle et autres diètes permettant une perte de poids. Car pour elle, être une femme, c'est être mince. Séduisante, souriante. Je dirais que la quintessence de son existence se trouve dans une taille 36. Mais elle-même ne répond qu'à une exigence qui a été la base de son éducation. Être mince, c'est comme être riche, c'est un symbole de réussite sociale et c'est une manière de s'intégrer à la société, d'avoir une place, un rang. Et puis, il n'y a pas eu que ma mère, il y a eu tous les films, les dessins animés et les médias en tout genre qui vantaient les mérites d'une femme mince. On a mis sur un piédestal la beauté d'une femme fine, qui ne prend pas de place, élégante et raffinée. La femme se devait d'être une représentation de ce que les hommes attendaient et souhaitaient voir. La beauté ne se conjugue qu'avec minceur, et je parle même pas de la diversité. Lorsque j'ouvrais un magazine de presse féminine, j'y trouvais tout un tas de programmes minceurs, mais aussi des conseils pour porter des vêtements de la meilleure manière. Tout, dans ces magazines, n'était qu'injonction et formatage. J'y voyais aussi des photos de mannequins minces et maigres, qui semblait définir un standard absolu. La femme parfaite, c'est un 34. La femme parfaite, c'est un physique, une apparence, un chiffre sur une balance, une taille de pantalon. La femme parfaite, c'est une donnée métrique. La femme parfaite n'est pas une identité. Elle est un moule dans lequel on doit rentrer. Tu vois, c'est un peu comme avec la pantoufle de Cendrillon. Car pour avoir l'espoir d'être reconnue et aimée, il faut pouvoir rentrer dans ces critères-là. Alors voilà comment, à l'âge de 9 ans, j'ai voulu perdre du poids. Et voilà comment, depuis 20 ans, j'ai l'impression de n'être jamais suffisamment mince. J'ai appris trop jeune que la séduction et l'apparence font partie de mon potentiel de réussite. En tant que femme, je dois correspondre aux attentes de la société, et surtout aux attentes que les hommes veulent de moi. J'ai trop tôt compris qu'en étant jolie et propre sur moi, ça m'offrirait certaines possibilités. Soyons honnêtes, être belle et le cultiver, ça aide. Ça ouvre des portes. Ça rend les gens plus aimables, et surtout, ça donne le sentiment d'être supérieur. Alors, j'ai vite fait le raccourci que minceur égale bonheur. C'est comme ça que j'ai basé une partie de ma réussite sur mon apparence. J'ai voulu, à tout prix, moi aussi, faire partie de l'élite de la femme parfaite. Être cette femme, jamais assez mince, jamais assez belle, mais qui fait tous les efforts possibles pour atteindre cet objectif. J'ai, sans m'en rendre compte, joué le jeu du patriarcat. Le pire, tu vois, c'est que je me sentais à ma place. Je me devais d'être cette femme qui se donne les moyens d'avoir un physique spécifique. Faire du sport, bien manger, être bien habillée et surtout, surtout être souriante, charmante sous tout rapport. Cela voulait aussi dire devenir un tyran. Tu vois, en en parlant comme ça, c'est presque pas si grave. Mais le truc, c'est que j'ai aussi vite compris que ça serait jamais assez. Parce qu'on nous a martelé à longueur de temps de multiples injonctions. Et la mode, elle aide pas non plus. Les tendances sont toutes conçues pour des physiques standardisées. Les grandes marques sous-taillent de plus en plus, ce qui fait que le 40 est devenu au fil du temps un 38, et le 38 un 36. Voilà comment je suis tombée sans vraiment le vouloir dans la quête d'un corps toujours plus mince et toujours plus standardisé. Ça a commencé par des envies de régime trop jeunes, puis, très rapidement, ça a évolué en obsession. Mes carnets où je notais tout ce que je mangeais en témoignent. Je notais absolument tout, même le nombre de verres d'eau que je pouvais boire. Mais ce n'était pas suffisant. Il m'en fallait plus. Alors j'ai fait du sport. Et tu vois, moi je suis de nature plutôt sportive. Mais j'ai toujours eu le sentiment que les 7 séances que je faisais par semaine, c'était pas assez. Je trouvais mon ventre trop gros, mes cuisses trop larges. Mon corps tout entier était devenu un ennemi à abattre. Je devais chaque matin prendre les armes pour soumettre mon ennemi à mes désirs sans fin. En permanence, je scrutais, j'épiais et je jugeais ce corps que je détestais. Le contrôle était permanent. Entre les 2 pesées par jour et la restriction alimentaire, je ne m'offrais aucun plaisir. Et tu vois, à mon grand regret, je devais malgré tout continuer de manger. Parce qu'aux dernières nouvelles, j'en ai encore besoin pour exister. J'étais donc un tyran, qui faisait régner la terreur dans mon intérieur. Je devais soumettre mon corps à mes besoins. Le besoin de me sentir mince, toujours plus mince. Et je ne voyais dans le reflet qu'un amas trop large, trop mou, trop lourd. Et c'est comme ça que la maladie s'est doucement installée. Doucement, comme un serpent qui se mue, j'ai voulu changer de peau et aller encore plus loin. Transformer mon physique et aller toujours plus loin. Je faisais pourtant un 36, mais c'était pas vrai. Je me voyais comme un escroc qui n'avait fait que voler ce corps. Mon 36 n'était pas réel. C'était faux. Je ne pouvais pas accepter l'idée que j'avais atteint mon objectif. Alors le contrôle a continué, encore et toujours plus. Je valsais entre anorexie et boulimie, entre restriction et gavage. J'ai ainsi soumis mon corps durant des années à mes désirs. Mais ces désirs, est-ce qu'ils étaient vraiment à moi? Est-ce que c'était vraiment les miens? Aujourd'hui, je sais que non, mais durant trop d'années, ce n'était pas aussi clair. Alors, j'ai œuvré chaque jour pour maintenir mon corps au même niveau que mon esprit. La nourriture, elle est devenue donc source d'angoisse et de douleur. Manger me faisait inévitablement grossir. Manger, c'est perdre au jeu de la perfection. Manger, ce n'est plus nourrir, mais souffrir. Le moindre aliment se doit d'être choisi non pour ses valeurs énergétiques, mais pour son pourcentage en calories. La sensation d'un ventre plein me rend malheureuse. Mon ventre, c'est mon pire ennemi. Il est trop gros, trop imposant et trop dérangeant. Il est l'épicentre de l'obsession. C'est lui qui m'autorise ou non à passer une bonne journée. Si je le trouve suffisamment plat, j'ai le droit de passer une journée plus apaisée. S'il est gonflé, alors je dois traîner mon fardeau jusqu'au soir. Mon ventre. Mon pauvre ventre. La nourriture est un ennemi, mon corps est un ennemi, la balance, le miroir, les vêtements. Toutes ces choses sont des démons monstrueux. La boulimie est l'un des symptômes des TCA qui a pris le plus de place chez moi, jusqu'au jour où c'est allé trop loin. Mon corps a donc dit stop, et j'ai dû regarder la réalité en face. J'ai dû accepter que j'étais malade. Ouais, à ce niveau-là, c'est une maladie. Et les maladies non visibles sont difficiles à accepter par l'entourage, mais c'est bien le cas. La quête d'un physique parfait, les magazines, les films, le rêve de rentrer dans un pantalon taille 34, tout ça m'a rendu malade. Car je ne peux désormais plus manger sans peur, ni crainte. Manger, c'est à chaque fois un moment que j'appréhende. La faim est mon pire ennemi. Mais je veux vraiment faire la paix. Et pour ça, il n'est plus question de trouver des coupables. Car c'est clair que la société et mon éducation n'ont fait qu'envenimer la situation. Mais je peux aussi prendre la responsabilité de voir les choses autrement. Comprendre que la norme n'existe pas. Comprendre que je ne suis pas une valeur métrique. Je vaux en effet mieux qu'une taille de pantalon et qu'un chiffre sur une balance. Et pour ça, je dois revoir tout mon système interne. Accepter que ma valeur ne s'estime pas à mon tour de taille. Accepter que mon apparence ne représente pas ma manière de penser. Accepter que ma réussite n'est pas juste être bien foutu. Accepter de ne pas faire un 34. Accepter de prendre de la place. Et surtout, accepter que la nourriture me nourrit. Simplement. Et ça, tu vois, ça me rend malade d'en parler, quand on voit ce qui se joue dans le monde. Se dire que mon cerveau, il est devenu fou à force de tout avoir, c'est désolant. Et pour autant, ça fait partie de ma réalité. Je suis le triste résultat d'un système qui se casse la gueule. Je ne suis que le produit d'un patriarcat oppressif et destructeur. Je suis le produit d'une société qui cultive les névroses des femmes pour empêcher notre épanouissement. Je suis le résultat d'une histoire de femme. Et je n'en suis qu'une parmi tant d'autres. Mon histoire, je pense que c'est l'histoire de millions d'entre nous qui traversent le temps. Car nos corps sont sujets à l'oppression depuis des milliers d'années. Le corps d'une femme, c'est le désir, la création, l'envie, la séduction. Mais avant tout, c'est juste un corps, qui permet de traverser la vie avec ses coups durs et ses joies. Réduire le corps de la femme à des injonctions, c'est le meilleur moyen de la formater au désir des hommes. Et n'être réduite qu'à notre apparence, c'est dénaturer notre essence. C'est accepter que notre existence ne se résume qu'à notre reflet. C'est aussi tomber dans le jeu de la rivalité entre femmes. Bref, le corps d'une femme n'est pas un moule. Le corps d'une femme n'est pas un chiffre. C'est une histoire. C'est une vie qui se joue dedans. C'est des épreuves à traverser, c'est des murs à faire tomber et surtout, c'est des joies à célébrer. Le corps d'une femme, c'est bien plus que des standards, c'est des nuances. Et si tu me permets, je vais terminer ce podcast en dédiant ces mots à la petite Pauline de 9 ans. Toi, petit enfant qui voulait à tout prix réussir dans la vie et qui pensait que tout se jouait sur ton physique. Je t'offre ces mots pour que jamais tu ne sois obligé de recommencer cette erreur. Car ma petite, tu seras heureuse. Ta vie sera douce car ton corps t'offrira cette vie. C'est dans ton corps que tu découvriras la vie, qu'il soit gros, mince, parfait ou non, c'est avec lui que tu aimeras. La société a tort, elle te ment, elle te fait croire que tu dois être belle, elle veut taire ton envie de vivre. Elle ne veut pas que tu prennes de place, elle te veut douce, souriante. Elle te veut pour tout ce que tu n'es pas au fond, et elle te veut soumise à n'importe quel prix. Elle te rendra malade s'il le faut.